L'ex-enquêteur SPVQ, il est prof aussi technique policière, cégep Garneau, l'ami Roger Ferland. Comment ça va, Roger?
Bonjour, monsieur, ça va très bien.
Merci d'être là. Ça
fait plaisir, monsieur.
J'ai une question, c'est peut-être pas drôle, c'est pas drôle, mais c'est particulier parce que j'avais cette question-là pour toi depuis un petit bout, puis je me suis dit, à un moment donné, je vais t'en poser. Puis là, c'est sorti dans les médias une histoire là, de policier Montérégie, 29 ans, Miguel Guénette Grégoire, donc policier qui était vendeur de drogue aussi, donc policier criminel. Puis la question que j'avais pour toi, c'était, je voulais ton opinion par rapport à ça, puis ça donne bien, c'est, il y a une histoire qui est sortie dans les médias. Roger Ferland, qu'est-ce que tu penses, toi, qu'il y a, tu sais, t'as cette belle carrière-là en tant qu'ex-enquêteur, en tant que policier, ça continue comme prof en technique policière, qu'est-ce que tu penses des policiers bandits?
En fait, c'est ce qui me fait le plus réagir, en fait. Quand Jeff m'a callé le sujet, j'ai tout de suite passé une couple de commentaires. Puis, parce que la police, on vit souvent avec l'image. La confiance des gens, c'est en fonction de l'image qu'ils vont avoir avec toi. Puis, même si, par exemple, un garagiste va être malhonnête ou un électricien est malhonnête, ou ça n'aura pas, on dirait, le même impact. Le fait qu'on est toujours comme policier en train d'intervenir avec des gens en position de vulnérabilité, je ne veux pas que les gens aient dans leur tête même pas la moindre parcelle de penser que les policiers ne seront pas honnêtes, ils ne sont pas là pour les aider. Tu sais, on intervient sur un vol, ben on peut peut-être en voler un petit peu plus. Non, faut pas que les gens aient même pas une lueur de penser qu'un policier puisse en prendre un peu plus autrement. Alors, à chaque fois qu'il y a des actions comme ça qui arrivent, je trouve que ça... ça tire un peu dans le pied, dans le canot de la police. Je déteste ça.
C'est le genre de choses qu'on voit souvent dans les séries policières, exact, ou dans les films. Dans la réalité, est-ce que ça arrive plus souvent qu'on pense ou c'est vraiment pomme pourrite puis des cas rares?
C'est des cas très rares. Mais quand ça arrive, souvent, ça fait quand même très mal. Moi, j'étais dans Shark le matin où on a appris que Benoît Roberge, un enquêteur du SPVM, avait été à la solde du crime organisé. Je vais te dire, ce matin-là, c'est un coup de masse dans le front qu'on a eu de la gang. Là. Moi, le premier, la semaine avant, j'étais avec lui proche, puis j'étais en train de le présenter à tout le monde ici à Québec comme étant un contact exceptionnel.
Ah ouais.
Ouf que je mangeais une claque sur la gueule ce matin-là, là, de me dire, un ami, quelqu'un que je respectais beaucoup, nous avait trahis de cette façon-là. Fait que c'est pour ça que ça m'amène à me dire, on doit refaire confiance, mais il y a un principe de fond dans toutes ces actions-là, c'est le « need to know ». Fait que je ne transférerai pas d'informations à quelqu'un s'il n'y a pas besoin de le savoir. Mais il faut être ouvert entre nous, il faut être ouvert entre policiers, se communiquer. Mais tout ce qu'il a appris, on se rend compte qu'il a pu le donner au crime organisé. Ça faisait mal beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Est-ce qu'à l'interne, en tant qu'enquêteur, ça t'amène justement à être plus prudent après avoir vécu une histoire comme ça?
C'est même nécessaire, c'est obligatoire.
Ouais.
Ça remet en question beaucoup de pratiques policières, même juste un événement comme ça. Comme là, celle-là va en amener d'autres encore, de regarder de quelle façon on est capable de prévenir ça. Parce que c'est des enquêtes qui sont lourdes et compliquées quand ça arrive après. Là, les premières fois que tu entends une petite information à l'effet que quelqu'un peut, tu dis ça se peut pas. Là, il y a beaucoup de validations qui se font avant d'enquêter, mais...
Oui, puis là, tu parles de ça, c'est des enquêtes qui deviennent plus complexes. Justement, tu sais, comment qu'on fait pour enquêter sur un policier sans qu'il sache?
Dans un premier temps, souvent, la dénonciation va se faire... Ça va atteindre les renseignements criminels, en fait. C'est eux qui vont avoir à valider ça. Ils reçoivent une information d'un citoyen ou quelque chose. Telle action policière s'est passée. Alors, il y a comme, je vous dirais, d'avance, là, une vigie qui est faite sans arrêt. Un petit épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de toutes les polices quand ils travaillent.
Okay.
On regarde tout le temps, tu t'arrêtes à quelque part dans un commerce, t'es géolocalisé, ton superviseur va regarder ce que tu fais là, ça se peut qu'il te pose des questions tantôt, pourquoi t'es arrêté. Fait que tu te rends compte que t'as toujours une vigie au-dessus de toi là, qui est là. Mais il y a plus que ça, quand à un moment donné, des informations rentrent puis que ça va atteindre un renseignement criminel, là, tel policier, ça a l'air qu'il aurait fait ça. Il y a une première validation qui est faite. Si c'est le cas, puis que ça s'avère que c'est fondé, que tu es capable de donner du crédit à l'information qui rentre, à ce moment-là, très vite, elle va être transférée aux affaires internes. Pour deux raisons. On ne veut pas qu'un confrère enquête sur son propre confrère, par souci de transparence, par éthique, mais aussi parce qu'il y a la loi aussi des syndiqués qui sont là, là peu importe, là, t'sais, mais aussi toute la rigueur que ça va demander, puis la liberté qu'on va devoir donner aux enquêteurs qui vont travailler sur cette personne-là pour être capable de l'attraper. Parce que souvent, c'est des gens qui sont assez habiles, qui connaissent le système, qui ont compris les rites,
les failles,
pour être capable d'en venir exactement à tricher dans les jeux.
Ouais.
Parce que c'est souvent ça. Ça, c'est la partie qui nous fait mal comme policiers. Quand des gens étaient relativement bons, aimés, respectés, mais qui trichent, tu veux pas ça. Il faut que tu aies encore plus, j'ai envie de dire, au-dessus de la mêlée puis honnête. Tu peux plus faire de coups de cochon quand tu es rendu une personne de à ce niveau-là. Alors, là, c'est transféré aux affaires internes, généralement. Et la boîte des affaires internes, là, comme ça relève directement de la direction, généralement dans toutes nos organisations, ils vont s'associer les enquêteurs qui auront besoin ou l'équipe qui auront besoin pour travailler avec eux. Alors là, tu vas te faire indiquer, par exemple, regarde, on enquête toutes les choses, confidentialité. Des fois même, on te fait signer un papier de confidentialité comme quoi tu n'en parleras pas du tout, tu n'alleras pas plus loin. Là, encore là, c'est un engagement moral, on s'entend tout le temps.
Ouais, oui.
Mais ça va au-delà du moral, parce que si tantôt on peut prouver que tu as traversé une ligne, c'est là qu'on fait, mm-hmm. qu'on va pouvoir te porter des accusations contre toi. Et c'est un peu ça qui se passe.
C'est quoi le premier réflexe? Drôle de question peut-être, là, Roger, mais c'est quoi le premier réflexe des collègues ou les confrères, comme tu les appelles? Prenons le cas là, de Miguel Guénette-Grégoire. Bon, 29 ans, on apprend, il revendait de la drogue. Mm-hmm. C'est quoi le premier réflexe des collègues? De vouloir le protéger ou, au contraire, pointer du doigt, dire « c'est une pomme pourrite » puis en faire un exemple?
C'est plutôt le deuxième. Je te dirais, on est extrêmement dur entre nous dans la façon qu'on a de juger. Puis je fais souvent la blague à dire que c'est on est géré en principe d'une head-sed, là, tu sais. Dès qu'il y a une tête qui dépasse, on la chope. Mais dans ce contexte-là, on est très vite à blâmer. On devrait toujours se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, puis le valider un petit peu. Mais on sait, comme policier, l'impact que ça va avoir sur notre carrière ou sur nos déplacements dans la rue en ce moment, tout le restant. Tu sais, je veux dire, prenez l'exemple de George Floyd, par exemple, qui est tout à fait un autre type, mais on s'est fait traiter, insulter plein de fois, mais j'ai pas mis mon genou sur la gorge de personne, moi, là. Mm-hmm. Puis je me suis fait traiter, tout ça. Puis pourtant, j'étais un plus vieux policier qui n'avait pas ces accès-là. Mais c'est clair que ça, c'était un meurtre en direct quasiment à laquelle on assisté. Ouais. Là. Soyons conscients. Mais c'est une autre mentalité, c'est aux États-Unis, dans un autre contexte. Mais on n'a pas, on n'est pas là. Mais tout de suite, ça a de l'impact pour toutes nous autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Comment ça que les confrères à côté n'ont même pas intervenu? C'est pour ça que le blâme, on est porté à blâmer, d'envie de vous dire, rapidement et assez vite.
Je ne veux pas rentrer trop dans la psychologie de l'individu parce qu'on ne le connaît pas personnellement, non. Mettons Miguel Guénette-Grégoire, mais le réflexe de monsieur, madame, tout le monde, première réaction, parce que on consomme des films et des séries policières, c'est que monsieur Guénette-Grégoire voulait arrondir les fins de mois. C'est une histoire de cash. Mm-hmm. On fait pas assez d'argent comme policier. On décide de faire ça parce qu'on veut faire plus d'argent. C'est ça la base. C'est-tu une vraie motivation? Puis on le sait pas dans le cas de Miguel Guénette-Grégoire, mais règle générale, c'est-tu parce qu'on manque de cash puis on accepte, on se dit c'est facile, je vais jamais me faire pogner?
C'était vrai il y a plusieurs années, sincèrement, à une époque où est-ce que les policiers étaient moins bien payés qu'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils sont surpayés, loin de là, là. Mais on est mieux payés, puis aujourd'hui, ça a évité la corruption pas mal. Je dirais que c'est plutôt un sentiment de pouvoir, d'avoir l'impression aujourd'hui du sentiment que il reprend du contrôle et du pouvoir sur sa vie, puis qu'il peut montrer, regarde, que je suis plus fin que vous autres, puis je suis plus smart que vous autres. Je pense que c'est un petit peu ça, souvent, qui motive ces gens-là à dire, regarde, moi, je le fais, puis regarde, me fais pas pogner. Plus que l'argent.
Je suis capable de jouer les deux bords.
Ouais, je suis capable de jouer les deux bords, moi, là. Tu sais, c'est plutôt un gros problème de fond d'estime de soi, qui est mal géré, puis que les gens s'imaginent qu'ils sont capables d'être plus fin que les autres.
Un petit problème d'égo, là, dans le fond.
Un petit problème d'égo important.
Ouais, c'est ça, un petit problème d'égo important, en effet. Roger, on enquête sur un policier. Mm-hmm. Puis là, ben, on a besoin qu'il reste en service parce que des fois, le fait qu'il soit en service comme policier, ça lui fait faire certains gestes qui vont amener justement à le condamner. Mais c'est quoi le point de rupture? Jusqu'à quand que je le garde dans mon équipe de policiers?
À partir du moment qu'on pense qu'on pense que ces actions qu'il peut avoir peuvent avoir un lien direct avec la sécurité du public, ou s'il y a de quoi qu'il a fait qui va changer le cours de la justice, c'est sûr qu'il est retiré immédiatement.
Immédiatement.
Puis dès que... La tolérance est assez faible là-dessus. C'est rare qu'on va te garder en service très longtemps. même regarder juste un policier qui se fait arrêter en faculté affaiblie, c'est lui-même avec sa propre vie dans un contexte précis, on le retire déjà de la route et la question de savoir si c'est avec solde ou sans solde maintenant est de plus en plus au cœur de tout ça, là, à savoir est-ce que c'est dans l'exercice de ses fonctions ou pas. Là, c'est extrêmement délicat. Fait que très vite, on essaye d'être... on lave plus blanc que blanc, du moins on essaye de faire ça.
Tu te fais pogner à l'interne comme ça. La dernière chose que tu veux probablement, c'est de croiser le regard de tes confrères. Il doit y avoir une honte incroyable.
Une honte incroyable qui s'installe à ce moment-là, tout à fait. Regardez, j'ai parlé tantôt de l'histoire de Ben Roberge. Dans les heures qui ont suivi, on s'est posé des questions, toute la gang. On était un petit groupe qui était provincialement des enquêteurs au niveau du crime organisé, qui se côtoyaient, qui travaillaient dans Shark, qui avaient de l'impact au niveau des renseignements criminels. C'était extrêmement dérangeant. Mais là, on se disait, puis on a tous été un petit peu, à cause de ça, aussi enquêtés. Ils ont tous regardé nos actions, nos appels téléphoniques, nos enquêtes CRPQ, le Centre de renseignement policier du Québec, dans les banques de données. Qu'est-ce qu'on a fouillé? Qu'est-ce qu'on a validé? C'est pour ça qu'on sait qu'on a toujours un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui nous pend au bout du nez. C'est pas nécessairement le fun, ouais. Tout à fait.
Je termine avec une question sur un dossier d'actualité parce que tu as piqué ma curiosité quand tu as dit, là, on se pose encore plus la question, suis-tu sans solde ou avec solde? Puis tu as donné l'exemple du policier arrêté avec faculté affaiblie. Mais là, dans l'actualité, on a le policier Christian Lachance qui est accusé d'agression sexuelle sur une collègue. Puis on apprend que ses avocats sont payés par la fraternité des policiers. T'en penses quoi? Parce que moi, les deux bras me tombent. Je me dis, voyons, il a fait un... Il a peut-être, potentiellement, posé un geste criminel envers une collègue. Mm-hmm. Puis la fraternité est quand même derrière lui. Alors que la collègue fait partie aussi de la fraternité.
Ça fait partie d'un principe très large qu'on donne à tous les criminels, le principe du droit à l'innocence en partant, la présomption d'innocence. Puis ça a été balisé pour éviter aussi qu'il y ait de l'abus des deux côtés. Par contre, après, ils ont toujours des recours pour revenir contre cela, là, tu sais, dépendamment si la personne, on peut prouver qu'elle était mal intentionnée, à un moment donné, on va la laisser tomber. Mais effectivement, je ne te cacherai pas que oui, c'est un principe de fond qui est là. Bon ou mauvais, regardez, j'ai même été interpellé par des citoyens là-dessus sur certaines autres causes aussi en ce moment-là, puis j'ai pas envie de défendre à tout vent, mais je pense qu'on a tout le droit d'avoir une défense à ce moment-là, mais c'est très délicat dans la position dans laquelle il est. Puis oui, c'est dur parce que là, vois-tu, c'est l'argent des citoyens qui sert à ça. On verra après, mais il risque son poste au complet. Là, t'sais.
Ouais, ouais.
C'est une personne qui est un sergent en charge d'une équipe de travail. Il risque tout. Là, t'sais. Ça peut aller jusqu'à une destitution. Fait que c'est pour ça que de répartir qu'est-ce qui était dans le cadre de ses fonctions, qu'est-ce qui ne l'était pas, c'était, à ce qu'on comprend, un party d'équipe. Fait que c'est pour ça que il y a souvent une décision qui est prise à savoir si le service te défend ou ne te défend pas, les frais d'avocat sont à tes frais ou pas. Ouais. Mais il y a des ententes syndicales là-dessus au fil des années qui se sont prises. Fait que c'est une ligne fine qui se décide à chaque fois, par contre.
Hey Roger, juste avant que tu quittes, là, parce que je sais que c'est dans les médias, il y a beaucoup de violence du côté de Montréal, les gangs de rue, puis là, on s'attaque des fois à la famille de ces membres de gangs de rue-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ceux qui... Mettons qu'ils chialent, disent « Hey, finalement, il n'y a pas de code, on devrait respecter un code. » T'en penses quoi, toi, un code chez les criminels?
Ben en ce moment, c'est le free-for-all, tu sais, comprends-tu? Puis le code d'honneur, tu sais, c'est un faux mot là-dedans, les gars, qu'il faut aller mettre. On l'a mis dans l'équation en disant qu'OK, les criminels ont une certaine honneur, on s'en prend pas aux familles. Attends un peu, là. S'ils en sont venus à ça, c'est parce qu'avant, ils s'en sont pris solidement aux familles.
Ouais.
Puis il y a eu, à un moment donné, une violence extrême entre eux. Puis là, ils ont dit « OK, on s'entend, on arrête de le faire. » Puis là, on fiche la paix au business. Fait que informe pas ta famille de ce que tu fais, puis elle n'est pas au courant. Mais dès qu'on sait qu'il y a des gens proches, le restant... Puis ça, c'est ce qui s'est passé en ce moment au fil des dernières années. Les conjointes sont souvent très impliquées dans le crime. Ils savent très bien. Ils sont prêtes, non. Ils agissent. Il y a un paquet de rôles difficiles. Ça a continué. Puis en ce moment, bien, on vit un principe de droit. Là, les gens n'ont que des droits. Alors, les criminels n'ont que des droits. Bien là, ils en sont venus à traverser cette ligne-là aussi, qui était un petit principe de fond que je vous dirais qu'il était... Il était vraiment là, c'est vrai, là, tu sais. Mais pendant des années, il se cachait, il faisait le crime le soir, la nuit, pas de lumière, tu sais. On se filmait pas. Là, on en vient à outrancier, là, ouais. Tu sais. Comprends-tu? On a traversé des lignes. Bien, je pense qu'ils sont capables de traverser n'importe quelle ligne en ce moment parce que ils ne regardent que le côté de droit. Ils n'ont pas d'obligation, ils n'ont pas de devoir, ils n'ont pas d'inconvénient si ça se produit. Il y avait des inconvénients que le crime a mis. Les gars qui ont fait sauter le petit le Jeep, là, comme le jeune enfant des Rochers, mm-hmm, là, ouais. Ces gars-là sont morts aujourd'hui. Là. Ouais. Puis c'est le crime organisé qui les a tués, c'est pas la police. Là, t'sais. Voyez-vous, on le sait parce qu'on l'a appris par les gens, parce que cette erreur-là a coûté très cher. Mais ça s'est fait en dessous de la couverte. Ça s'est pas fait au grand public. Là, en ce moment, c'est clair qu'il y a une notion d'un certain respect de bandits entre eux qui n'est pas là, mais le respect va très vite, là. Le code de déontologie chez les motards, la mafia, n'importe laquelle criminalité organisée, oubliez ça, là, il est assez vite. Puis les motifs raisonnables de croire là, sont souvent plus de l'étape du soupçon ou de la rumeur. Des ouais. fois, à un moment donné, on pense que, correct, Joe puis Max, tu t'en occupes. Ouais. Parfait, c'est beau. Oh, OK, parfait, ils sont partis. Ouais. C'est pour ça qu'on est loin de ce qu'on peut voir dans tous les films avec un grand respect. Regardez, quand vous regardez certains films, Le Parrain ou l'autre, là, je regarde Les Incorruptibles, à quel point la violence était présente dans son équipe directe. Caroline, tu n'avais pas envie de traverser la ligne parce qu'il payait un show devant tout le monde à toutes ouais. les fois quand il le faisait. Là, fait que c'est pour ça que c'est quoi le code d'honneur? Il y avait un respect, tu ne touchais pas aux familles généralement, mais regardez certaines criminalités organisées, ça se passait partout dans d'autres pays. Ouais. Là, je pense qu'on est en train de vivre cette multi-changement-là. C'est multifactoriel, les gars, là. Tu sais, trompons-nous pas, mais je pense qu'on va en avoir encore un peu pour un bout de temps parce qu'on ne ramène pas des inconvénients à la hauteur des avantages qu'ont les criminels d'agir en ce moment. Ouais.
Roger Ferland, ex-enquêteur SPVQ, prof technique policière Cégep Garneau. Roger, toujours un plaisir, tu le sais. On s'en reparle bientôt.
C'est réciproque. Bonne journée à vous, messieurs.
Salut, Roger. Journée.